Merci pour l'invitation. Et c'est un petit peu difficile de parler après le Chardonneret. Je vais essayer de prendre ma voix la plus gracieuse. Je suis pas sûr que j'y arriverai. Martine Marzoff m'avait invité ici à l'origine pour parler d'un sujet d'un sujet sur lequel je travaille, les pratiques créatives des joueurs de jeux vidéo. Il s'avère que j'ai fait mon mémoire de master pendant 2 ans sur ce thème-là et que que je participe à plusieurs groupes de recherche sur les joueurs de jeux vidéo, et on travaille un petit peu sur des questions on pourrait travailler sur des questions de créativité, mais en réalité je n'avais pas grand-chose à en dire, simplement parce que tout ce que je sais faire à partir de là, c'est repérer quels sont les joueurs qui ont des pratiques créatives et savoir, c'est un sujet qui m'intéresse, comment est-ce qu'ils s'opposent à d'autres types de joueurs. Mais en réalité, j'aurais été incapable de parler de ce que c'est que la créativité pratique des joueurs de jeux vidéo. Et j'ai donc fait une contre-proposition, celle de parler de la question de l'écriture et de la manière dont le numérique, Internet, les technologies de l'information en général peuvent affecter nos pratiques d'écriture. Il s'avère que j'ai un intérêt personnel et professionnel extrêmement important pour ce sujet-là, mais je ne le connais pas plus que ça, parce que je n'ai pas fait d'enquête empirique sur le sujet. Et en tant que sociologue, j'ai une certaine réticence à parler de quelque chose que je n'ai pas étudié, d'un phénomène que je n'ai pas étudié chez, les individus ordinaires, c'est-à-dire les individus autres que moi. Je vais donc vous parler... autres que moi... ordinaire, c'est-à-dire parler de quelque chose que je ne connais que par mon expérience personnelle et pas par un travail sur Effectivement, c'est une des grandes difficultés de la sociologie que de savoir, de pouvoir parler au nom de quelqu'un d'autre que soi. Et c'est pour ça que je veux faire en fait ce petit avertissement méthodologique au départ. Ce que je dis est valable, ce que je vais dire aujourd'hui est valable pour moi et pour ma propre pratique. Je ne sais pas si ça produit les mêmes effets, si Internet produit les mêmes effets chez d'autres personnes. Donc voilà une petite restriction. Pour me présenter un peu plus complètement, donc je suis doctorant à l'École normale supérieure au Centre Max Weber, qui est un laboratoire de sociologie. J'ai donc travaillé sur les jeux vidéo. Je travaille aujourd'hui sur la réception de l'art et sur un autre oiseau, un drôle d'oiseau, Nicolas Poussin, et la manière dont ces tableaux sont perçus par le public des musées. Et j'ai en général sur l'art une approche assez externaliste, c'est-à-dire que justement je travaille sur la réception, et ce qui m'intéresse c'est la manière dont un public va s'approprier un ensemble d'œuvres, va les voir, les interpréter, et ce qu'il va en faire. Et donc je travaille assez peu finalement sur des questions de création. Et pourtant j'ai une activité créative, en un certain sens, puisque je suis scientifique, chercheur, jeune chercheur, apprenti, et en tant que tel, je crée en permanence des textes. C'est mon travail d'écrire des textes de conférences comme celle-ci, d'écrire des revues de littérature, des comptes rendus d'ouvrages, d'écrire des cours, d'écrire des articles scientifique, et un jour même d'écrire une thèse, peut-être un livre, qui sait. Donc voilà. Et c'est de cette pratique créative-là, qui est une forme de création scientifique et non pas littéraire ou artistique, que je voudrais parler aujourd'hui, en me disant que je ne crois pas que fondamentalement, quand on s'intéresse aux conditions matérielles de cette pratique créative, quand on s'intéresse à la manière dont elle fonctionne et à ce que les technologies peuvent y apporter en tant qu'outil, comment elles peuvent l'appuyer, je ne crois pas qu'il y ait une différence si grande que cela entre le travail scientifique, le travail sociologique en l'occurrence, et le travail littéraire ou le travail artistique plus généralement. Donc, intérêt de ce sujet, ce que le numérique d'une certaine manière fait à la création scientifique, en l'occurrence, mais disons à l'écriture. Comment donc, dans un monde si fortement inscrit dans le réseau, écrit-on désormais ? Le constat duquel je voudrais partir, c'est que les écritures quotidiennes se sont considérablement accrues avec l'accès aux technologies numériques. C'est-à-dire, je vais y revenir un petit peu, mais en gros, avec le numérique, on s'est retrouvé dans une situation où un ensemble de personnes extrêmement grand qui avaient des rapports à l'écrit assez peu développé, notamment qui était limité en général au cadre scolaire, c'est-à-dire en particulier les classes populaires, etc. Toutes les personnes qui travaillaient, qui avaient d'une part peu de pratiques culturelles liées à l'écrit et qui d'autre part avaient des métiers, exerçaient des professions dans lesquelles on mobilisait assez peu l'écrit. Toutes ces personnes-là se sont retrouvées avec le numérique dans un monde où on mobilise l'écrit en permanence, on lit en permanence et on écrit en permanence. C'est-à-dire on écrit des SMS, des emails, on écrit des chats, on écrit sur des messageries instantanées, on écrit des blogs, on écrit des statuts sur des sites de réseaux sociaux, etc. Et pourtant, ce constat-là duquel on peut partir, il faut le faire suivre immédiatement d'un autre, c'est que les inégalités sociales qui prennent appui sur justement l'écrit et la maîtrise de l'écrit, malgré cette accession à ces technologies de l'écrit, malgré cette accession, les inégalités sociales qui sont fondées dessus persistent globalement aussi vivement qu'elles ont pu l'être avant ces technologies numériques. Donc voilà pour l'intérêt professionnel que je peux avoir aussi pour ces questions d'écriture. Oui, donc quelques avertissements. Donc, mon texte, cette conférence, donc, est fondée sur une expérience avant tout personnelle. Donc, je vais vous parler après un court retour sur cette question de ce que le numérique peut changer à l'écriture en général. Je vous parlerai plus précisément de la pratique que moi je peux avoir et la manière dont je mobilise un certain nombre d'outils dans mon écriture personnelle. Une expérience donc scientifique et seulement secondairement littéraire, donc pas proprement artistique, mais je pense que là il n'y a pas beaucoup de différence encore une fois, et une analyse matérielle, c'est-à-dire que je voudrais me focaliser sur l'aspect de la création qui est proprement matériel. Comment fait-on concrètement pour écrire ? Ça demande d'analyser à mon avis justement les conditions matérielles d'écriture, au sens dans quel lieu, à quel moment, à quel sujet. Comment est-ce que l'on fait ? Et là, c'est tout un programme de sociologie du travail intellectuel qui serait à mener, et qui n'est pas le mien ici, puisque je travaille sans empirie, je n'ai pas fait d'enquête à proprement parler sur l'écriture scientifique. Et d'autre part, ça demande de s'interroger sur les outils, c'est-à-dire avec quoi on écrit. Et c'est là-dessus vraiment que je voudrais insister aujourd'hui, en vous parlant d'un ensemble de logiciels notamment, ou de services qui sont disponibles, de services numériques, qui permettent justement, qui appuient l'écriture, sur lesquels l'écriture pardon, peut s'appuyer, et qui offrent un ensemble d'opportunités, d'avantages, d'intérêts pour écrire. Et donc la question finalement que je voudrais poser, c'est qu'est-ce que ça change de passer d'un stylo et d'un papier, ou même auparavant d'une plume et d'un parchemin, à un logiciel de traitement de texte, ou à l'ensemble de services que je voudrais présenter. Alors, j'ai un petit problème d'ordinateur qui s'est mis en veille, désolé. Juste pour décrire, je vais le mobiliser d'ici 10 minutes pour vous montrer un petit peu très précisément ce dont je veux parler. Juste, alors, je ne sais pas si on arrive à lire, tout en haut, l'adresse. Voilà, qui est là. Je vais la mettre ici en plus gros, elle sera plus visible. Si vous voulez aller sur cette adresse, vous y trouverez un pirate pad dont je parlerai plus tard. Bref, il y a un ensemble de liens qui sont disponibles sur ce document et qui sont les liens vers les logiciels dont je veux parler et quelques références. Mais je vous invite surtout, c'est un document collaboratif que vous pouvez éditer si vous allez à cette adresse. Donc si ça vous intéresse, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est un document que je vous donne, vous pouvez prendre des notes sur les logiciels que je rajoute, vous pouvez écrire des questions si vous avez des questions à poser, discuter avec les autres intervenants dans la partie chat, je vous promets que je n'espionnerai pas, et en faire ce que vous voulez. Je reviendrai un petit peu à ce type d'écriture collaborative. Donc, voir la création comme une activité, un travail donc qui a des conditions, s'appuie sur des ressources et prend place dans des environnements. Une activité concrète, inscrite dans un monde social. Une activité qui est certes singulière et qui est pensée comme telle, mais qui, malgré tout, repose sur des outils, des normes, des choses qui sont partagées et communes. Donc avant de définir un peu, de parler un peu des outils, je voudrais faire un bref retour théorique, et là c'est mon habitude de sociologue qui parle, faire un petit retour théorique sur la question des liens entre l'écriture et les inégalités sociales et scolaires, et de son importance. La maîtrise de l'écrit, la capacité à produire donc des textes cohérents, structurés, syntaxiquement corrects, etc., est une compétence qui est, on le sait, extrêmement inégalement répartie dans le monde social. Et pas seulement, et j'aurais même tendance à croire que pas du tout, parce qu'il y aurait, de la part de certains, de la mauvaise volonté, des réticences, un manque de travail, et de la part d'autres, soit du génie, soit... soit justement du travail, de l'activité, mais plus fondamentalement, à mon avis, parce que la culture écrite, enfin à mon avis, à l'avis de beaucoup de sociologues de l'éducation, parce que la culture écrite est un environnement quotidien pour certaines catégories de la population et étranger pour d'autres. Je ne sais pas s'il est besoin de rappeler les principales idées, toujours d'actualité, des travaux sur l'éducation qu'ont mené Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans les années 60, donc les héritiers, la reproduction, ces livres-là. L'école, à bien des égards, sélectionne des individus qui sont déjà sélectionnés socialement parce qu'elle produit un mode de classement valorisant une culture maîtrisée par certains élèves et extérieure à d'autres. Et plus près de nous, les travaux de Bernard Lahire sur la culture écrite et les inégalités scolaires, j'ai mis quelques références dans le Pirate Pad, elles sont ici. Donc plus près de nous, les travaux de Bernard Lahire ont montré l'importance prépondérante dans la détermination de la réussite scolaire d'une capacité générale d'écriture. Le rapport des élèves donc à la culture écrite dépend largement de leur origine sociale, de leur pratique de l'écrit sous toutes ses formes, en particulier la lecture, dans des environnements extrascolaires. Et à l'heure d'Internet, comme je le disais, par bien des aspects, la technologie change un peu la donne, parce que toute cette partie de la population dont les pratiques d'écriture et de lecture aussi étaient assez peu développées jusqu'alors, deviennent avec les technologies de la communication des écrivains quotidiens. La communication médiatisée par ordinateur, téléphone portable, repose de plus en plus sur l'écrit. C'est particulièrement visible dans les générations les plus jeunes. Je vous renvoie, par exemple, à une recherche récente dont j'ai donné les références ici, donc de Sylvie Octobre et Christine Détré, Pierre Merclé, Nathalie Berthomier, qui s'appelle « L'enfance des loisirs », qui est une grande enquête sur les pratiques culturelles des jeunes, et qui montre justement la manière dont le SMS, les messages électroniques, la messagerie instantanée, les blogs, etc., sont des choses qui sont présentes dans la vie quotidienne des jeunes de manière extrêmement importante. Et Pierre Merclé rappelait très récemment une conférence que les adolescents pouvaient envoyer aujourd'hui chaque mois des milliers de SMS. Donc chaque mois, c'est-à-dire des centaines par jour. Si on colle ça dans un document Word ou si on les imprimait en NRF, certains sans doute pourraient être publiés. Si on les imprimait, ça fait quand même plusieurs dizaines de pages par mois. Donc les gens écrivent énormément. Développement donc de l'écriture, et pourtant les inégalités de maîtrise de l'écrit persistent. Il a beau être beaucoup plus utilisé, plus pratiqué, il ne l'est pas sous les mêmes formes, ni de la même manière par toutes les catégories sociales, tous les individus. Les travaux de sociologie, notamment qui s'intéressent à la question des inégalités de rapport et d'accès à Internet, convergent ainsi pour dire qu'aujourd'hui, les inégalités sociales d'accès à Internet, c'est-à-dire la question de savoir si on peut ou non utiliser tous ces services, se sont très largement résorbées dans les pays industrialisés, mais se sont substituées à ces inégalités des inégalités d'usage. Ce ne sont pas donc les mêmes sites, les mêmes services que tout le monde consulte, et tout le monde ne les utilise pas, ni avec la même habileté, ni avec la même compétence. Voir, par exemple, toute la littérature sur ce qu'on appelle la double fracture numérique, je vous renvoie aux travaux de Fabien Grandjean en France, ou d'Esther Aguitaille aux États-Unis. Et donc, il me semble qu'à cet égard, Internet et l'écriture qui est... favorisé et dynamisé par Internet est un terrain privilégié du travail éducatif qu'on peut faire justement sur l'écriture. C'est un endroit où il y a une pratique effective des jeunes, et pour reprendre le titre d'un ouvrage de Christian Baudelot, « Et pourtant ils lisent, et pourtant ils écrivent », les adolescents, les jeunes en général, et puis plus généralement toute la population finalement. Donc il y a une pratique, disons, indigène, au sens où il y a une pratique extrascolaire de l'écriture, et pourtant ce sont des formes d'écriture qui ne sont pas nécessairement maîtrisées, développées, travaillées. Et je pense sincèrement que dans la mobilisation des outils qu'offre le numérique, et dans l'apprentissage de leur maîtrise, on peut peut-être, il est peut-être possible de développer justement une certaine maîtrise du rapport à l'écrit. Donc je vais passer maintenant à quelque chose de beaucoup plus personnel, à parler d'écriture scientifique et de la manière dont on peut mobiliser un ensemble d'outils, de logiciels et de services pour travailler cette écriture. Je voudrais partir d'un ouvrage qui est à mon avis remarquable de Howard Baker, donc un grand sociologue américain, et qui s'appelle « Écrire les sciences sociales ». Ouvrage qui analyse justement les difficultés que peuvent rencontrer les sociologues de son entourage, enfin les sociologues, les historiens, toutes les personnes qui font des sciences sociales, les difficultés à produire des textes scientifiques. Et il fait un certain nombre de constats qui me semblent plus généralement applicable à n'importe quel type d'écriture publique. Écriture publique au sens d'écriture de texte destiné à être publié et non pas à rester, et donc à être lu par d'autres personnes que leur auteur. Il explique, par exemple, que l'anxiété d'être lu, en particulier, est extrêmement grande. Il faudra assumer ce que l'on écrit, on sera tenu pour responsable, on pourra le retrouver, ce sera lu, confronté. Et c'est pour lui l'une des raisons majeures, à la fois de l'angoisse de la page blanche et peut-être aussi du style un peu, quelque peu amphigourique, qui est parfois à l'honneur dans nos disciplines. Et son ouvrage, cela dit, va plus loin que la description d'un symptôme. Il est aussi un recueil d'idées, de trucs, de ficelles pour libérer l'écriture. Et beaucoup de ces ficelles concernent la création de rituels. Il décrit comment un collègue ne peut écrire ses premiers jets qu'au feutre, ou comment un autre commence systématiquement toute session d'écriture par tailler une dizaine de crayons de papier avant de se lancer. Et ce sont là, à mon avis, des formes d'aide matérielle à l'écriture qui ne sont pas tellement différentes des logiciels en fait qu'on utilise ou qu'on peut utiliser aujourd'hui. L'ouvrage ayant été écrit à la fin des années 80, à une époque où on utilisait moins le traitement de texte, très précisément 86. Donc recueil, donc idées, trucs, rituels. En règle générale, disons, un ensemble d'outils qui forment une contrainte extérieure sur l'écrivant, sur celui qui souhaite écrire, de contraintes qui lui permettent justement de se mettre à cette tâche d'écrire effectivement et d'écrire d'une certaine manière. Et donc l'idée, c'est de savoir quels sont les outils qui vont, en fonction évidemment de notre but, de notre objectif, quels sont les outils qui vont permettre de déclencher la création scientifique, qui vont nous permettre de la déclencher non seulement, mais aussi de la mener à bout et de la mener à bout d'une manière conforme à nos ambitions. Je pourrais distinguer, disons, trois grands éléments de ce que peut être la création scientifique. Trois grands critères de réussite, disons. Le premier, c'est de pratiquer régulièrement, écrire beaucoup, pas forcément des choses publiables ou destinées au public, mais écrire beaucoup pour mettre en forme ses idées, fixer sa pensée, lui donner forme et la travailler. La seconde, c'est collaborer. Collaborer, montrer son travail, le faire commenter, critiquer, mais aussi travailler ensemble, ce qui, il me semble, est beaucoup plus propre à la pratique scientifique qu'à la création artistique, mais on peut penser que dans l'écriture de scénarios, par exemple, ou l'écriture de pièces de théâtre entre un metteur en scène, un auteur, etc., il y a tout un ensemble dans le monde artistique d'occasions, d'opportunités de faire un travail collaboratif. Et d'autre part, la troisième chose dont je voudrais parler, qui en fait sera la deuxième, puisque je me suis trompé dans l'ordre, c'est réécrire, c'est-à-dire apprendre non pas seulement à écrire, mais à réécrire, à travailler une première fois, et puis à remettre son travail sur l'établi, et à en permanence le retravailler. Et ça veut dire archiver ses textes, gérer ses archives, se retrouver dans sa propre production, et reprendre en permanence, remettre ses écrits sur le tas, et les retravailler. Voilà pourquoi ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est montrer très pratiquement un ensemble de trucs à partir de logiciels qui peuvent permettre de réaliser ces choses-là. Donc je commence par la pratique. Il y a deux problèmes qui se posent ici. D'abord, écrire beaucoup et régulièrement, très régulièrement, d'une part, et d'autre part, écrire des choses de qualité régulièrement. Pour la première, je voudrais vous présenter un petit outil qui s'appelle donc 750 words, 750 mots. En anglais, qui est un site internet, un service gratuit. Vous avez le lien sur le PiratePad, un site internet donc gratuit qui propose à ses utilisateurs d'inciter, en fait, enfin qui les incite à écrire tous les jours 3 pages, soit 750 mots, d'où le titre du site, 3 pages de texte sans contrainte de sujet ou de qualité autre que celle que donc se donne l'utilisateur. L'idée, donc là, voilà, et aujourd'hui je n'ai rien écrit. D'ailleurs, vous pouvez voir que je n'ai pas écrit grand chose dans le mois, mais c'est quelque chose que j'ai fait pendant un temps assez long en fait, et qui a été relativement productif. Donc l'idée, c'est ça vient de l'idée de je ne sais quel écrivain américain qu'il faut écrire des pages du matin, des morning pages, tous les matins justement, écrire 3 pages en se levant et ainsi entretenir sa production littéraire ou sa production en tout cas écrite. Et donc là, elle est mise en dispositif numérique avec avec ce service qui non seulement donc incite à écrire tous les jours en envoyant des rappels par email, etc. Mais en plus incitation supplémentaire qui semble futile, qui est un petit jeu en fait, une activité ludique. Chaque page écrite rapporte des points, c'est-à-dire que si on écrit quelque chose, ici par exemple ce jour-là où j'ai écrit 497 mots, j'ai obtenu un point. Aujourd'hui, je pense que j'aurais obtenu un point aussi. Si on écrit plus de 750 mots, on en obtient 2. Et puis, on obtient des points aussi pour les fois où on écrit des textes tous les jours, donc pour les jours d'écriture successive. Et en fait, ce petit dispositif ludique qui permet d'écrire des choses privées, hein. C'est des choses qui sont pas du tout mises sur Internet, on les garde pour soi, enfin c'est sur Internet mais on les garde pour soi, ensuite on peut les télécharger, les retravailler sur son ordinateur, etc., et les retravailler tout seul. Ce petit dispositif ludique permet en fait d'inciter effectivement des gens qui n'ont pas nécessairement cette pratique là à écrire régulièrement, parce que justement il y a une forme de contrainte extérieure sous une forme, bon, enfin assez peu contraignante, mais sous une forme ludique. Et quand on voit les commentaires des utilisateurs sur le site, on se rend compte que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Merci, j'ai écrit un roman grâce à votre site. » Je m'y suis mis tous les jours, et tous les jours, pendant un an, j'ai écrit un roman à la fin. Si vous calculez 750 mots par 365 jours, ça fait même un très long roman. Et puis, il y a un ensemble donc de jeux. Enfin, je ne développe pas, mais je vous invite à vraiment aller voir. C'est une idée qui est... c'est, à mon avis, une très bonne idée. Vraiment, les outils que je veux présenter, c'est des petites choses comme ça qui sont apparemment stupides, mais qui permettent véritablement de faire quelque chose, de travailler. Donc, d'une part, écrire beaucoup, 750 mots. D'autre part, écrire des choses publiables régulièrement. Et là, on a... alors, c'est peut-être moins vrai dans le domaine artistique, mais je ne connais pas nécessairement tout. Enfin, dans le domaine littéraire, je pense que ça produit des choses assez bonnes. Dans le monde scientifique, la pratique du blog est quelque chose qui est extrêmement productive, à mon sens. Puisque, donc, la pratique du blog, l'idée, c'est d'écrire régulièrement, tous les quelques jours ou toutes les semaines, un texte de qualité suffisante pour pouvoir être publié. Et pour peu qu'on ait une certaine autodiscipline et qu'on s'autorise à ne pas publier n'importe quoi, et donc on se force à retravailler des textes qui sont des miscellanées d'une certaine manière, des textes un peu divers, des idées comme ça, des paragraphes, on peut arriver à faire... c'est un dispositif, le blog, qui, parce que justement c'est publié, c'est sur Internet, c'est public, les gens peuvent le lire, qui incite à écrire régulièrement ce genre de choses. Et dans le monde scientifique, on a beaucoup de très bons exemples. Je vous en donne 2 dont j'ai mis les liens sur le PiratePad encore, qui sont de blogs à mon avis de qualité et qui justement sont écrits par des auteurs qui prennent pas le temps de faire des introductions, des conclusions, des choses comme ça, mais qui donnent une idée, la développent pendant quelques paragraphes et puis arrêtent. Et en fait, on voit que là, c'est quelqu'un qui écrit depuis 2007. Ça permet d'avoir une production extrêmement importante et des choses qui sont de qualité. Ça, c'est un blog de philosophie que je lis régulièrement, qui s'appelle donc Aniceris, et où vous avez là un texte sur Spinoza qui, évidemment, n'est pas du niveau des grandes études que vous pouvez avoir sur Spinoza, mais qui apporte quelque chose pour ses lecteurs, puisque on y apprend. Enfin, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, mais apporte aussi, à mon avis, beaucoup à son auteur que je ne connais pas personnellement par ailleurs. Puisque ça le force régulièrement à écrire de tels textes, à mettre en forme sa pensée, etc. Un autre, je vais aller vite, mais un autre texte qui me semble intéressant, un autre blog qui me semble intéressant, c'est celui-ci, Politbistro, dont j'ai mis pareil l'adresse sur le PiratePad, qui est un texte de sciences politiques et qui, de la même manière, incite ses auteurs à écrire régulièrement sur des sujets dont ils ne sont pas spécialistes. Donc le deuxième sujet que je voulais, le deuxième élément que je voulais travailler, c'est la question de l'archivage donc et de la réécriture. L'archivage au sens de conserver une trace de ces textes Et justement pour permettre la réécriture, pour permettre une forme d'écriture un peu fragmentée qui fait que on peut prendre des notes sur un sujet, écrire des paragraphes. Quand on travaille encore une fois sur un projet qui soit scientifique ou littéraire, écrire des paragraphes par-ci, par-là, écrire des idées, les mettre en forme et puis ensuite les retravailler. Et là je voudrais insister sur l'importance que peuvent avoir dans cette pratique des logiciels, des services ou des logiciels de prise de notes notamment, parfois collaboratifs, qui peuvent être à mon avis assez intéressants. Je voulais en présenter deux, celui-ci qui s'appelle Simple Note, qui est disponible ou sur internet ou sur le bureau, sur Mac ou Windows. C'est simplement un logiciel qui rassemble un ensemble de notes créées par les utilisateurs, qui sont des notes extrêmement diverses. Vous voyez ici, j'en ai une centaine, ça c'est mon acompte, et qui permet de prendre ou des notes tout à fait spécifiques sur juste des choses à se rappeler, des listes, etc., ou de rédiger des premiers brouillons, des premiers paragraphes, des choses comme ça. Ici, vous avez un paragraphe d'une première version d'une réponse à un appel à communication que j'ai écrit. Il y a quelques mois. Et ça permet aussi, parce qu'il y a des tags, il y a des systèmes d'étiquettes, etc., de s'y retrouver. Et le jour où on a besoin de récupérer tout ça, le jour où on se rappelle qu'on a écrit un texte sur tel ou tel sujet, de le reprendre et de le retravailler. Une alternative à ça, donc ça c'est un logiciel qui est libre, celui-ci est un logiciel propriétaire qui est une alternative à mon avis intéressante, qui propose d'autres options que je développerai pas, mais encore une fois je vous invite à aller les voir, qui s'appelle Evernote, qui est un peu plus connu, qui fait à peu près la même chose, qui est un peu plus joli, mais propriétaire. Et quelque chose par contre que j'aimerais vraiment, un autre logiciel que j'aimerais vraiment présenter, parce qu'il permet de gérer des projets beaucoup plus conséquents, c'est un petit logiciel qui s'appelle Scrivener, qui est ici, et qui donc permet de gérer des projets d'écriture importants. À l'origine, il a été construit pour écrire des scénarios par des écrivains américains qui, enfin on le sait, les écrivains américains travaillent beaucoup avec la télévision et le cinéma, et ont beaucoup ce genre de besoins. Donc il a été écrit pour utilisé pour écrire des scénarios avec l'idée que c'est un logiciel autosuffisant, c'est-à-dire une fois qu'on a ça, on n'a besoin de rien d'autre pour écrire. On a une partie draft, qui est une partie en fait écriture, où on met tous les textes qu'on veut écrire. On a une partie research, donc où on met les éléments de recherche, les photos, les films, les enregistrements et tout un tas de choses. Ici, moi, j'ai mon journal de terrain, par exemple, sur mon journal de terrain de thèse, qu'on va ensuite mobiliser dans notre écriture. Et ça permet de fractionner ensuite l'écriture en un ensemble, donc fractionner un long projet, un livre par exemple, en un ensemble de textes beaucoup plus courts, des chapitres mais aussi des sections, voire des paragraphes, et ensuite de les travailler à la fois séparément et dans la globalité du projet, puisqu'on peut voir à la fois tous les textes qu'on a écrits à la suite des autres, les uns à la suite des autres, ou un seul, donc ici c'est une section, un paragraphe d'un texte que je suis en train d'écrire sur ma thèse. Et ce genre de logiciel, à mon avis, permet véritablement d'avoir une vue d'ensemble en fait de ce sur quoi on travaille, beaucoup plus que beaucoup de logiciels de traitement de texte, et à cet égard est assez intéressant donc pour développer des projets d'écriture d'envergure. Bon, et enfin, le dernier besoin que me semblait avoir l'écriture scientifique, c'est celui donc de la collaboration. Donc à la fois montrer ses textes, critiquer, mais aussi écrire collaborativement. Et pour ça, il y a un ensemble d'outils, encore une fois, qui sont disponibles sur la plupart des ordinateurs qu'on n'utilise pas nécessairement. Word étant finalement, dans ce cas-là, un outil, à mon avis, assez bon. Ici, c'est un exemple d'un texte qu'on a écrit avec quelques collègues, qui porte sur les jeux vidéo et qui a été publié très récemment. Et ça, c'est un draft de travail, donc c'est un brouillon, une version assez avancée, en fait, du texte, dans lequel chacun, à partir du texte de base sur lequel on s'était mis d'accord, chacun rajoute ses propres les interventions qui sont donc écrites, qui sont là inscrites en rouge, pour permettre en fait aux autres d'ensuite les relire, les accepter, les refuser et en discuter. Et ici on a donc les commentaires que font chacun, ici deux de mes co-auteurs, donc des commentaires sur ce qu'ont écrit les autres, qui permettent de lancer le débat, de discuter de chacun des termes qu'on peut utiliser, de l'intérêt d'un paragraphe ou d'un autre, etc. Et ça, c'est des outils qui sont extrêmement faciles à utiliser, qui existent et qui, à mon avis, produisent des choses vraiment intéressantes sur ce que peut être la collaboration, enfin sur un intérêt extrêmement important pour la collaboration scientifique. Le dernier outil que je veux présenter pour la question justement du travail collaboratif, c'est celui que j'ai d'ailleurs présenté en premier, qui est donc l'idée qu'on puisse utiliser des pirate pads ou des pads disons collectifs, donc des pages internet sur lesquelles chacun peut travailler. Je voudrais vous montrer un exemple d'une telle écriture. C'est celui-ci, c'est une journée d'études qui avait été organisée à l'ENS il y a quelques mois sur la question de l'avenir des sciences sociales dans un monde numérique. Et on avait ouvert un tel donc un document comme le Pirate Pad que j'ai ouvert tout à l'heure, pour que chacun puisse ajouter des notes sur ce que disaient les intervenants. Et là on voit une intervention, donc une intervention de Milad Douehi, qui était donc venu nous parler de Demain, quelle science sociale, qui était venu faire une intervention, et on a les notes prises par les gens qui sont dans le public, voire des gens qui sont chez eux et qui regardent la conférence en streaming, donc on est dans un niveau de mise en abîme assez intéressant, chaque couleur correspond à un auteur différent, de la même manière que si les gens qui sont connectés au Pirate Pad écrivent, ils auront une couleur dans le Pirate Pad, leur couleur à eux, pour qu'on puisse repérer ce qu'ils ont écrit. Et là on voit comment fonctionne véritablement une forme d'écriture collaborative instantanée et surtout en live, disons, en action, où on a chacun qui corrige ce qu'écrit l'autre au moment même où il l'écrit, rajoute des liens, des précisions, des références, des choses comme ça. Bon, et ça donc tout ça pour dire en fait que c'est vraiment un ensemble d'outils qui me semble-t-il peuvent être extrêmement intéressants d'un point de vue pédagogique, justement pour apprendre la maîtrise de l'écriture et pour faire, pour mener à bien des projets d'écriture. À bien des égards, et là, je parle peut-être à titre personnel, mais le numérique a véritablement changé mon rapport à l'écriture. Je fais partie d'une génération qui a connu plusieurs systèmes, une génération en fait de changement. Quand j'étais en licence, j'écrivais tous mes cours à la main, sur du papier, sur des cahiers, des choses comme ça. Donc pendant, c'était jusqu'en 2007, j'ai passé ma licence en 2007. Quand j'étais en master dans cette école, je me suis mis à écrire tous mes cours à l'ordinateur. Et depuis ce temps-là, je n'écris plus de texte à la main quasiment. J'utilise encore le papier, le crayon, pour un certain nombre de choses, pour écrire sur le terrain. En tant que sociologue, j'ai beaucoup à aller sur le terrain, où j'ai pas nécessairement d'ordinateur à ma disposition, pour prendre des notes de lecture, parfois pour écrire des premiers brouillons, parce que effectivement, il y a un rapport au papier qui produit des choses qui sont différentes du rapport au numérique. Et pourtant, au-delà de ça, j'utilise tous ces outils pour justement avec les objectifs que j'ai décrits, j'utilise tous ces outils parce que ils libèrent d'une certaine manière l'écriture et ils sont tout un ensemble d'appuis à la créativité scientifique. Et je pense que ce sont très largement des outils qui sont assez mal utilisés. En tout cas, et je parle même pour mes collègues, les collègues avec qui je travaille, ne savent pas nécessairement maîtriser ces logiciels-là. Je pense pas que les étudiants, les élèves le savent très bien, en tout cas ceux que j'ai eu jusqu'à maintenant. C'était pas le cas. Et il me semble pourtant que la maîtrise de ces choses-là, des outils avec lesquels on écrit, est aussi importante que pouvait l'être justement l'apprentissage de l'écriture manuelle, parce que l'écriture et la création n'est pas possible sans support et sans appui. Voilà, je vous remercie de votre attention.